Alors c'est maintenant que nous allons parler justement de l'activité physique et sociale dans le cadre du traitement de la maladie d'Alzheimer. Et j'accueille tout de suite le docteur Thérèse Jonvaux, chef, alors qui est rattachée au service de neurologie et coordinatrice du centre mémoire de ressources et de recherche de Lorraine au CHRU de Nancy. Voilà, vous avez la zapette pour le PowerPoint et le micro, et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et finalement, je vais vous parler aussi d'une zone entre nos deux régions. Je vais vous parler des Vosges que j'ai franchies pour vous rejoindre. Et je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi et de partager ce temps d'échange. Voilà. Alors là, on va un petit peu changer de registre. On va être plus dans quelque chose de quotidien, de concret, peut-être qui vous paraîtra moins scientifique, mais qui, j'espère, vous intéressera tout de même. Alors j'ai compris qu'il fallait, voilà, aller par là-bas. Alors, l'activité physique et le cerveau, finalement, c'est un sujet qui a déjà été abordé. Et effectivement, oui, j'ai repris d'ailleurs sur le site de la Fondation qui nous réunit aujourd'hui les éléments de cette diapositive. Oui, on sait qu'une activité physique régulière a un effet bénéfique, puisque vous voyez que c'est tout à fait significatif. 30%, c'est pour nous, pour des effets cognitifs et cérébraux, c'est un très bon effet, si on compare à certains médicaments, par exemple. Donc, lorsqu'on compare les personnes qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas d'activité physique, on a cette différence très nette. Les recommandations, alors on a déjà un petit peu abordé la question, et c'est plutôt tout de même une certaine régularité. Vous avez parlé tout à l'heure du marathon, et je dirais faire 42 km une fois par an, où ce n'est peut-être pas le meilleur rythme. Il vaut mieux tout de même avoir une activité physique assez régulière, mais entre une pratique 3 fois par semaine ou un petit peu moins tous les jours, là on n'a pas de moyen de différencier le bénéfice. Mais en tout cas, ce n'est pas une fois par an un effort très intense qui est le plus recommandé. Donc 3 fois par semaine, c'est une des recommandations, et tout au moins bouger. Alors ce n'est pas automatiquement 60 minutes d'activité physique intensive en salle hein, par jour, parce que là ça serait difficile à réaliser, mais c'est bouger. C'est-à-dire, c'est marcher, c'est se lever, c'est ne pas prendre l'ascenseur, monter quelques marches, c'est quand on a une course de proximité, ne pas automatiquement prendre sa voiture, mais y aller à pied. Alors, voici un petit peu le sujet que l'on m'a demandé de traiter avec vous, et je reprends un peu l'historique de notre réflexion. On a été amené à ce que je vais vous exposer après. Par la réflexion du groupe Sujet Jeunes qui s'est créé donc au CM2R de Lorraine à partir de 2013. Tout d'abord, on a eu une réflexion entre professionnels avec les consultations mémoire de notre région sur les problématiques spécifiques et les particularités des personnes les plus jeunes atteintes de maladies d'Alzheimer et apparentées. Et à partir de 2017, on a créé un groupe d'échange avec ces personnes-là pour mieux comprendre leurs besoins et essayer d'y répondre. Et en particulier, donc, dans ces échanges qui se déroulaient de manière très informelle, 2 à 3 fois par an, c'est pas une association, il n'y a pas besoin d'adhérer, hein. Voilà. Ils ont exprimé des souhaits et des attentes. Alors, vous voyez, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces personnes-là étaient demandeuses d'activités physiques et d'activités sportives. Alors, lorsqu'on me demande quelle est la meilleure activité physique dans la maladie d'Alzheimer, ben pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études comparatives entre chaque sport. Et vous voyez qu'on a pas mal de choix et de possibilités. Et ce sont des activités sportives qui se développent d'ailleurs dans les associations. Et en particulier, l'association France Alzheimer a développé dans un certain nombre de régions, notamment, une activité ping-pong. Alors, c'est le cas en Lorraine. Puis, on a aussi une activité golf qui s'est développée, etc. Et vous voyez qu'en premier, celle que absolument tout le monde est compétent pour réaliser, c'est la marche à pied, la randonnée. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans un sport ou d'avoir un équipement très coûteux. Voilà. Alors, finalement, la randonnée, qui est ce dont je vais vous parler, qui est l'activité qui a été choisie en Lorraine, pourquoi la randonnée? Eh bien, les intérêts sont multiples. D'abord, il y a un intérêt, je dirais, général, pas seulement neurologique ou cérébral. L'activité physique, elle a un effet bénéfique sur l'état cardiovasculaire, sur la régulation de certaines pathologies, l'hypertension, etc. Et tout simplement et tout naturellement, un bon état cardio-circulatoire va avoir un retentissement positif au niveau cérébral. Mais c'est aussi un entretien musculo-squelettique, prévention de l'ostéoporose, maintien de la souplesse articulaire, tendineuse, prévention des chutes par travail de l'équilibre, notamment la randonnée, on va être amené à avoir des sols un petit peu irréguliers, et ça va stimuler notre proprioception, c'est-à-dire notre sens de la position du corps, ce qui est très important dans la prévention des chutes. Autre point, l'activité physique va stimuler l'appétit. Et donc, ça peut être tout à fait bénéfique. Et on revient sur le sujet de tout à l'heure, va avoir un effet aussi bénéfique sur le sommeil. Alors, la randonnée, c'est aussi une activité physique dehors. Et effectivement, il y a une valeur ajoutée, ça a été bien montré par différents travaux, à la même activité physique en termes d'intensité. On peut mesurer la force musculaire qu'on a utilisée pendant un exercice physique. Et si on compare cet exercice réalisé à l'intérieur ou réalisé dehors, on voit qu'il y a une valeur ajoutée à le faire dans la nature. Il y a une meilleure oxygénation cérébrale, il y a l'effet de la vitamine D qui est aussi important sur l'organisme, cette vitamine qui nous aide à consolider notamment nos os. Et il y a ce qui a été décrit par une équipe hollandaise qui a fait une étude de santé publique auprès de 400 000 Hollandais et qui a mesuré la distance entre leur domicile et un espace de nature et leur consommation de soins d'une manière très globale, aussi bien consultation chez le généraliste que médicaments, etc., et qui a montré effectivement un meilleur état de santé lorsqu'on habite et qu'on pratique une promenade ou une activité dans la nature près de chez soi régulièrement. C'est le concept de vitamine G comme green, hein, vert. Et notamment, j'ai parlé jusqu'ici beaucoup des effets physiologiques, cérébraux, physiques, mais il y a aussi des effets du contact avec la nature qui sont bien décrits, qui sont des effets psychologiques sur le stress, sur l'anxiété, sur la dépression, sur l'apathie, qui sont nets lorsqu'on compare effectivement, par exemple, des signaux du stress au cours d'une marche à l'intérieur ou en ville et dans une forêt. On voit que les hormones du stress, comme le cortisol, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, sont mieux stabilisées par l'exercice dans la nature. Et puis, la randonnée, donc, c'était une activité en groupe qu'on a choisie. En groupe, vous l'avez dit dans votre introduction, M. Cartier, c'est du lien social, c'est pouvoir aussi converser au cours de la marche. Et tout ceci, c'est effectivement un bénéfice cognitif qui est ajouté à celui de l'activité physique. Enfin, notre projet, il était aussi d'avoir une activité inclusive afin effectivement de ne pas se replier sur la maladie, d'avoir des échanges qui soient aussi en dehors de la sphère de la santé et de la maladie. Et aussi, cette activité de randonnée, comme je l'ai dit, la marche, tout le monde est compétent, il n'y a pas besoin d'être un champion. Et donc, tout le monde a bien pu participer sans qu'il y ait des champions et des laissés pour compte. L'estime de soi était donc valorisée.
Docteur Jonvaux, à ce stade, ce n'est pas toujours facile de faire cohabiter l'ensemble des membres d'un groupe. Il va y avoir des gens qui vont aller plus vite, d'autres moins vite, d'autres qui vont ressentir la fatigue. D'où l'importance de cette démarche inclusive. Alors expliquez-nous, c'est avec une accompagnatrice, une organisatrice qui va organiser ça à la carte. Dites-nous en plus.
Voilà, tout à fait. Alors on a effectivement créé ce groupe de randonnée et c'est aussi issu bien sûr de la demande de ces personnes jeunes et de cette rencontre avec le groupe au cours de nos échanges, mais aussi la chance de rencontrer une guide de randonnée donc, qui exerce dans les Vosges, qui a aussi une formation de musicothérapie et qui a l'habitude d'accueillir dans ses randonnées des publics très variés, tout venant ou avec différentes difficultés, des enfants atteints de troubles du développement ou d'autisme ou des adultes ayant des limitations de marche. Elle a créé un parcours notamment aménagé qui peut être réalisé avec un déambulateur ou etc. sur son terrain des Vosges.
Alors, comment ça s'est passé ce projet? Comment ça s'est monté? Est-ce que c'est assez formel, assez informel?
Il a fallu franchir des étapes formelles, effectivement, parce qu'elles sont obligatoires. Donc finalement, c'est venu aussi d'un échange avec l'Agence régionale de santé, qui a fait un appel à projet dans le cadre des manifestations sportives pour l'arrivée des Jeux Olympiques en France en 2024. Et on a répondu à ce projet en 2019. Et comme on avait aussi cette demande des sujets jeunes, on a proposé ce groupe de randonnée. On a obtenu donc un budget qui a été versé sur une association. Ça, c'était le tout début. administratif. Et puis, donc, il a fallu préparer les randonnées, justement, voir si les personnes souhaitaient tel ou tel type de localisation. Est-ce que c'était la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, quelle durée, etc. On a rencontré aussi, puisque l'ARS nous demandait une évaluation, un psychologue qui devra réaliser des entretiens pour mesurer la satisfaction et l'impact en fin de projet. Et puis, on a signé donc une convention tout à fait officielle avec l'ARS. Et les premières étapes, comme je vous l'ai dit, c'était de répondre à des questions. Où va-t-on? Quelle durée? Quelle modalité? Finalement, dans les échanges, on avait parlé randonnée à pied. Et puis, les Vosges. Alors, les Vosges, ça a fait l'association La Neige. Ah, et si on allait faire du ski ou de... Ah, le ski? Tout le monde a dit, ben non, moi, j'ai pas l'habitude du ski de fond. Voilà, réticence, donc pas de ski de fond. Mais en revanche, les raquettes ont trouvé public. Et donc, vous le verrez, on est sorti en raquettes. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que les personnes viennent seules? Est-ce qu'ils peuvent venir avec leurs aidants ou avec leurs enfants, leur famille? C'était totalement ouvert, effectivement. Et puis, il y a les choses concrètes. Il faut se rendre dans les Vosges, par exemple, ou dans Meurthe-et-Moselle pour les Vosgiens. Comment est-ce qu'on se transporte? Tout le monde ne pouvait pas facilement se libérer. C'est donc sur ce point du transport, notamment, qu'on a eu un partenariat aussi avec France Alzheimer. Et donc, voilà, le 12 janvier, on commence à préparer. On souscrit aussi une assurance dans l'association. Il faut bien entendu veiller à tout cela. On avait des fiches d'analyse des souhaits de chacun. Et donc, on fait une réunion début février pour pouvoir donc partir. Pour la première sortie en février, donc une après-midi, dans un site qui est donc tout près finalement de Nancy, c'est la forêt cathédrale des Ducs de Lorraine, qui est une forêt historique très belle de hêtres, qui forme donc cette voûte qui ressemble à des ogives que vous voyez là. Donc une sortie d'après-midi un petit peu à l'essai, je dirais. Hein, voilà. Et puis finalement, donc la fameuse sortie raquette, un tout petit peu plus tard, le 7 mars 2020, retenez bien la date.
7 mars.
Donc voilà, vous allez voir pourquoi. Donc un petit peu plus long, le trajet que vous avez là-haut. Donc voilà les raquettes fournies donc par la guide. Personne n'avait une grande expérience, mais tout le monde s'est approprié les bâtons. Vous voyez que c'est un tout petit peu plus sportif parce qu'il y a un peu de dénivelé, alors que la forêt cathédrale, il n'y en avait pas. Vous voyez qu'on avait la chance d'avoir vraiment un beau manteau neigeux. La petite photo en bas, vous ne la voyez peut-être pas bien, mais ce sont les traces des animaux. Parce qu'effectivement, aussi bien dans la forêt cathédrale, dans la boue, que dans la neige, on a aussi pris du temps pour observer la nature, regarder les traces, identifier le sanglier, le cerf, le renard. Tout ceci était fort intéressant. Donc c'est ça, je l'ai mis au milieu. Donc voilà un petit peu le récit de ce qui s'est passé. On ne va pas lire toute la diapositive. Ce qui a été intéressant, c'est effectivement le temps de convivialité dans le refuge, où on a tous mangé ensemble notre pique-nique tiré du sac, comme on dit. Et puis, un temps exceptionnel, à la fin, quand on était donc à Grosse-Pierre, on était en hauteur avec cette belle vue sur le massif des Vosges. Et donc, notre guide nous a offert un moment de musique sur le thème de Pierre et le loup, version vosgienne, qui a été un moment exceptionnel.
Docteur Jonvaux, comment est-ce que ça a été ressenti à la fois par les aidés et les aidants, cette initiative?
Alors, moi je pense que c'est un très beau souvenir pour chacun. Ça a été un temps vraiment hors de la maladie qu'on a partagé, notamment par exemple la rencontre raquette. On était avec des étudiants parisiens qui étaient là en amoureux pour leur week-end, et personne ne savait qu'il y avait des personnes avec une maladie dans le groupe. Et à la fin, sur le parking, on avait du mal à se quitter. On voyait que les personnes qui avaient participé avaient envie d'échanger encore, et notamment plusieurs des membres du groupe ont voulu le dire à ces étudiants qu'ils avaient une maladie. Et c'était un peu la surprise et une autre manière de se rencontrer.
Donc, ça a été une phase test avant un renouvellement, puisque vous avez attiré notre attention tout à l'heure sur cette sortie qui était le fameux 7 mars 2020, quelques jours avant le confinement.
Voilà,
ça veut dire qu'après, quand on est revenu dans un rythme entre guillemets normal, ça n'a pas forcément été simple avec la crise sanitaire et puis la pandémie qui se poursuivait.
Ça a coupé court au projet. La survenue du confinement. Donc là, on reprend les réunions du groupe et on va donc repartir en randonnée, sans doute à la rentrée. Un point important aussi, c'est vraiment le changement de regard des uns sur les autres et l'ambiance dans le groupe très très différente. Moi, j'ai participé aux deux sorties et je vais le dire en toute simplicité pour vous faire sourire. Moi, je ne suis pas bonne en raquette, hein. Je ne suis pas issue du tout de la région. Je suis d'une région où la neige, quand on en voit 2 heures par an, c'est le bout du monde dans mon enfance. Et donc, je suis tombée plein de fois. Et alors, heureusement, dans le groupe, il y avait des grands messieurs costauds qui étaient bien contents de relever leur médecin et d'être le plus fort des deux à ce moment-là. Voilà. Et le plus compétent.
Merci, merci docteur.
Voilà.
Alors, est-ce que, alors on va, peut-être on peut en dire déjà un mot, puis après échanger avec la salle. Vous l'avez dit, c'est un projet quand même qui nécessite un certain nombre de formalités. Mmh. Ça a été un appel à projet auquel vous avez répondu, appel à projet lancé par l'ARS Grand Est. Est-ce que vous avez déjà conduit une évaluation de cette initiative?
Alors non, le confinement nous a vraiment coupé notre élan. On ne pouvait pas organiser d'évaluation auprès des personnes au moment des restrictions sanitaires. Et effectivement, 2 ans et demi après, le groupe a évolué. On s'est réuni hier et on voit que le groupe Malade Jeune, il y a peu d'anciens et il y a plein de nouveaux à qui il faut de nouveau présenter le projet. On leur a représenté hier et ils sont effectivement majoritairement intéressés par les sorties à la journée complète. On a quelques demandes pour des demi-journées et les raquettes ont été plébiscitées hier soir. Voilà, donc il y aura une sortie à nouveau en février dans la neige. Voilà.
Merci,
je
ne
suis pas sûr d'avoir fait des progrès en 3 ans.
Merci, docteur Jonvaux. Voilà, vous pouvez applaudir le docteur Jonvaux pour cette présentation. Qui veut prendre la parole? Qui veut rebondir par rapport à ce qui a été présenté par le docteur? Ce qui peut-être est intéressant, en attendant que quelqu'un éventuellement veuille vous demander plus de précision, ce qui est peut-être intéressant, c'est que le groupe qui était constitué et qui est parti pour cette première expérience de sortie sur le terrain, le fameux 7 mars 2020, depuis, est-ce que ce groupe a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient malades, qui ne sont plus parmi nous, etc. Comment le groupe a-t-il évolué?
Oui, alors effectivement, le groupe a évolué. Certaines personnes ont déménagé ou ne sont plus en état de participer. Et je dirais, ce qui a été aussi un effet tout à fait intéressant, c'est que se rencontrer dans ce contexte hors situation de soins, je dirais, ça a permis aux personnes aussi de tisser des liens entre elles. C'est-à-dire qu'il s'est créé une dynamique entre les personnes qui se sont rencontrées en dehors des sorties randonnées, qui ont échangé leurs adresses, qui ont fait des sorties. Certaines sont allées au centre Pompidou de Metz ensemble ou allées au restaurant ensemble. Ils ont créé entre eux des liens complètement indépendants de notre organisation au CM2R. Et ils ont gardé effectivement tout au long des années, ils me le racontent pour certains d'entre eux, des contacts rapprochés et tout à fait bénéfiques de part et d'autre.
Sortie ponctuelle ou c'était une organisation, il y avait plusieurs sorties?
Donc là, il y a eu 2 sorties d'organiser, celle dans la forêt cathédrale, celle dans les raquettes. On devait continuer par des sorties au printemps, etc. Le financement que nous avons obtenu, c'était pour financer 4 sorties pour mettre au point le modèle, si vous voulez, faire une évaluation et pouvoir donner un rapport à l'ARS pour une transposition à d'autres sites ou d'autres lieux qui auraient souhaité s'inspirer de cette expérience. Et donc, effectivement, la réflexion va être de pérenniser, de trouver d'autres financements pour poursuivre, oui, puisque là, les personnes n'ont absolument rien eu à débourser que leur pique-nique. Quoi, voilà.
Merci. Justement, docteur, si des personnes dans la salle voulaient initier des projets un peu similaires, le cadre était un peu particulier, c'était un appel à projet lancé par l'ARS Grand Est, mais somme toute, est-ce qu'il y a une manière plus simple, plus informelle d'organiser et qu'elles peuvent être
alors, bien sûr, il faut trouver un financement, parce que si vous avez un animateur sportif, un professeur d'activité physique adaptée ou un guide de randonnée, il va demander, sauf s'il est bénévole, il va demander une rémunération. Il faut aussi veiller effectivement aux aspects administratifs. C'est pour ça que j'ai parlé de l'assurance, parce qu'à partir du moment où effectivement vous êtes dans un groupe, il faut une assurance personnelle, mais une assurance aussi de notre association, par exemple. Mais il y a des moyens de trouver des budgets auprès de différents mécènes, certainement la conférence des financeurs ou des mécènes privés. Ce n'est pas des coûts énorme. Et effectivement, après, il y a un petit peu cette méthodologie de recueil des souhaits, d'expliquer comment on va faire la randonnée, de savoir qui veut faire des demi-journées, des journées, de la raquette, pas de la raquette, pour essayer d'offrir une variété qui corresponde à tout le monde. Tout le monde ne vient pas à chaque randonnée, mais tout le monde, c'est ce que l'on espère, tous les participants trouvent au moins des randonnées qui leur conviennent dans le programme. Voilà.
Pas de demande de prise de parole. Peut-être un dernier point, Madame Jonvaux, pour ce qui est des réactions, des suites de ces deux sorties. Il y a des personnes, vous dites, qui ont réussi à profiter de ce temps hors maladie, qu'on crée des liens, qu'on noue des liens avec d'autres participants. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui se sont lancés dans le bénévolat, dans l'aide aussi?
Alors, c'est plutôt les aidants.
Les aidants.
Voilà, oui. Effectivement.
Merci. Merci docteur Jonvaux.